Alors déjà, je voulais revenir sur une question qu'on nous a beaucoup posée avec Martial Poirson. C'était de savoir, en fait, pourquoi on avait choisi d'éditer un énième ouvrage sur la comédie française, qu'est-ce qui justifiait cette nouvelle publication. Et d'ailleurs, c'est même une question que m'a posée mon directeur à la comédie française. Alors ça, c'est, en fait, Martial Poirson, je le connais depuis longtemps. Moi, je travaille à la comédie française depuis 11 ans. Et on avait remarqué tous les deux qu'il manquait en fait un ouvrage qui aborde un peu l'histoire de la comédie française dans sa globalité. Parce que des ouvrages sur la comédie française, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et ils sont de deux types. Il y a des ouvrages qui sont à destination du grand public, qui sont en général des ouvrages très illustrés, qui reprennent donc le riche fonds iconographique de la bibliothèque-musée, et qui sont des ouvrages souvent qui se fondent sur les sources secondaires. Donc sur la presse, par exemple, donc, qui reportent souvent un petit peu les mêmes histoires, parfois qui n'ont pas toujours été vérifiées dans les sources. Donc ça, c'était une première catégorie d'ouvrages qui avait le mérite d'exister, et c'était très important, notamment pour le public de la comédie française, qui est quand même très représentatif de ce grand public, de ce public amateur de théâtre. Et puis il y avait aussi des ouvrages très spécialisés qui sont en général publiés par des universitaires qui se concentrent sur une période donnée de cette histoire, sur un aspect du répertoire, une biographie de comédien, en tout cas des aspects très précis de cette histoire, mais donc ils sont très utiles pour les spécialistes, mais qui permettent pas d'avoir une vision globale non plus. Et nous voulions donc publier un ouvrage qui soit un petit peu à la croisée de ces deux démarches, donc à la fois un ouvrage qui soit vraiment très scientifique, historiquement fondé sur les sources, mais aussi un ouvrage qui s'adresse au grand public. Et ça, c'était un peu on ne savait pas très bien au début si on allait y arriver, je dois dire, parce que mon institution à moi, Comédie Française, me demandait effectivement, si on publiait un ouvrage, de l'adresser au plus grand nombre. Et puis, de par nos formations, tous les deux avec Martial, on avait à cœur de vraiment brasser les sources, de revenir vraiment dans les archives. Donc c'était vraiment l'idée, c'était avant tout de s'adresser à tous. Et puis, l'idée, c'était que il nous semblait qu'il manquait un ouvrage pour orienter de jeunes chercheurs qui s'intéressent à cette institution et qui vont s'y intéresser justement par un biais très précis, qui va être une période, qui va être un certain type de littérature, de genre dramatique, parce qu'il faut pouvoir se situer dans le long terme, et que justement c'était difficile. Et d'ailleurs c'est quelque chose moi que j'ai éprouvé quand je suis arrivée dans cette institution, ça m'était difficile en fait de m'orienter dans cette vaste histoire, qui a plus de 3 siècles maintenant de déroulement, parce qu'il manquait cet ouvrage-là. Un premier écueil auquel nous avons eu à faire face, ça a été la difficulté de trouver un éditeur, assez paradoxalement, parce que c'est pas forcément évident de publier des ouvrages grand public sur le théâtre aujourd'hui. Donc on a essuyé pas mal de refus. Et puis finalement, les éditions du Seuil ont bien voulu publier cet ouvrage. Et je dois dire qu'on a été très suivis par les deux éditrices qui ont déjà défendu le projet en comité éditorial, mais en plus qui nous ont vraiment fait des retours très précis sur, puisqu'elle ne connaissait rien au sujet, sur des points de rédaction, de clarté du propos, et c'était vraiment très très utile. Donc l'idée, c'était à la fois de publier un beau livre et aussi un ouvrage qui comble un peu les trous de la bibliographie, mais de manière assez globale. On ne peut pas entrer dans le détail sur tous les sujets. Et puis pour moi, qui suis conservatrice, qui est à cœur de m'intéresser aux sources, c'était aussi de brasser toutes ces sources, de pouvoir vraiment, sur une durée de 2 ans, puisque c'est à peu près cette période sur laquelle on s'est vraiment plongé dans ce travail, de brasser très largement les sources pour pouvoir ensuite orienter des jeunes chercheurs, des étudiants, pour leur donner des sujets, en ayant une vision un peu globale de ce qu'ils pourraient trouver dans ce fonds d'archives qui est extrêmement riche. Alors, maintenant, si je veux aborder un peu quelle problématique a dirigé notre réflexion et la manière dont on a rédigé cet ouvrage. On a intitulé notre livre « Comédie française, une histoire du théâtre ». Et en fait, au début, ça n'était pas notre projet, mais on a été un peu happés par des impératifs éditoriaux, nous voulions intituler cette histoire une histoire culturelle. Bon, mais il y avait à peu près 10 ouvrages au seuil qui étaient sous-titrés une histoire culturelle, donc on nous a expliqué que ça n'était pas possible. Et on nous a suggéré ce titre de une histoire du théâtre qu'on a eu un peu de mal à s'approprier, parce que on trouvait ça un peu présomptueux de prétendre que cette institution pouvait représenter quelque part l'histoire du théâtre. Mais bon, c'est vrai que comme c'était une histoire du théâtre, ça supposait que c'était une histoire parmi d'autres. Donc finalement, on s'est laissé convaincre. Et il est vrai que c'est une histoire quand même relativement importante dans le paysage théâtral français, puisqu'en fait, pendant très longtemps, de par le monopole de la Comédie française, l'histoire, on va dire, institutionnelle, officielle du théâtre, pendant longtemps, s'est faite dans cette institution-là. Donc, quelque part, on s'est approprié aussi ce sous-titre. L'autre pan qui nous semblait très important, donc au-delà de cette vision globale de cette histoire, c'était en fait de faire le lien avec l'histoire politique. Parce qu'en fait, dès la création de la Comédie française, en 1680, par Louis XIV, il y a un lien très fort qui est fait avec les affaires politiques. Donc c'est vraiment une volonté du monarque de créer cette institution. Et même jusque dans les périodes finalement relativement récentes, et c'est vraiment quelque chose qui scande cette histoire-là, le lien avec le politique, par exemple dans les années 50, 60, la Comédie française, quand elle partait en tournée, était véritablement considérée encore comme un ambassadeur de la France à l'étranger. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a, sur laquelle on a insisté en fait au cours de notre propos, qu'on supposait être très important, mais qui s'est vérifié au cours du travail de dépouillement des archives. Alors évidemment, le pouvoir politique peut influer positivement ou négativement sur l'activité artistique. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on s'est appliqué à analyser, à décortiquer. À certains moments, c'est une grande force parce que c'est une institution qui est protégée par le politique. Et puis à d'autres moments, c'est une entrave à l'activité artistique parce qu'il y a censure, parce qu'il y a un contrôle. Et que quelque part, c'est une institution aussi qui est beaucoup plus observée de par son positionnement d'institution nationale que d'autres théâtres. Voilà, et ce qu'on voulait aussi, c'est d'essayer, dans la mesure de possible, de ne pas faire l'économie de ce qui pouvait contester l'histoire un peu officielle de la Comédie française, de montrer quels sont les points de tension de cette histoire, ce qui peut mettre en danger les missions de cette institution. Par exemple, je ne sais pas, les moments où la troupe de la Comédie française est un petit peu moins solidaire. On voulait vraiment pointer du doigt ces aspects-là aussi. Et surtout, ce qu'on voulait aussi, et ça c'était très important pour moi, c'est de ne pas faire un livre institutionnel, c'est-à-dire que ce ne soit pas la vitrine de la Comédie française. On voulait vraiment avoir une certaine objectivité dans le traitement du sujet, que ce ne soit pas un livre promotionnel à la gloire de cette institution, ce qui avait pu être aussi l'écueil de certains livres précédents. Alors, ensuite, je vais vous parler des sources de cette histoire. Donc, notre propos était très vaste parce qu'il s'agissait de faire une histoire littéraire, une histoire économique, une histoire institutionnelle, une histoire culturelle, politique, une histoire aussi des sensibilités, une histoire esthétique de la scène et une histoire des représentations de la scène. Et ce dernier aspect m'était particulièrement important parce que je gère une collection muséale. C'est la bibliothèque musée de la Comédie française. On a énormément de tableaux, de sculptures, d'objets qui représentent la scène. Et pour moi, c'était très important de mettre en valeur ce fonds de peinture, de sculpture et d'art graphique qui est relativement connu parce que voilà, c'est une source incontournable pour tous les historiens du théâtre, mais qui n'est pas exposé au public puisque nous n'avons pas de salle d'exposition à la Comédie française. On peut visiter la Comédie française en suivant une visite guidée, mais on ne peut pas se balader dans une salle comme dans n'importe quel musée. Donc c'est vrai que l'accès au grand public n'est quand même pas tout à fait garanti et les places sont malgré tout limitées pour accéder à ces visites. Alors, les sources sont extrêmement variées. La grande chance qu'on avait, c'est qu'elles sont quand même essentiellement concentrées en un lieu qui est la bibliothèque-musée de la Comédie française. Et ça, c'est quand même extraordinaire pour un chercheur de pouvoir se dire que si on lit bien les inventaires, les catalogues, etc., on est sûr de ne pas passer à côté de quelque chose d'important. Enfin, évidemment, il y a d'autres sources aux Archives nationales ou dans d'autres institutions comme la Bibliothèque nationale de France, mais quand même, l'essentiel est au cœur même de ce théâtre, à la bibliothèque-musée. Alors, peut-être revenons un tout petit peu sur cette question, parce que c'est un peu une anomalie du point de vue de l'histoire institutionnelle. Vous savez que la Comédie française est un établissement public à caractère industriel et commercial. Donc c'est un établissement public, donc c'est évidemment caractère public de cette institution. Et pourtant, nous ne versons pas les archives aux Archives nationales. Alors pourquoi ça n'est pas le cas? Il se trouve que ce statut d'établissement public date seulement de 1995. Donc c'est quand même très très récent dans notre histoire. Auparavant, la seule structure juridique qui existait pour la Comédie française, c'était la Société des comédiens français. Donc cette Société des comédiens français, elle est créée à la suite de la fondation par Louis XIV en 1681, donc tout de suite après, sur le modèle de toutes les institutions théâtrales du XVIIe siècle, c'est-à-dire que les comédiens passent un acte devant notaire et vont s'associer comme une société moderne, ils vont participer à l'entreprise théâtrale et recueillir des gains déterminés sur les bénéfices. Donc c'est vraiment une société privée. Et c'était la seule structure juridique qui était reconnue jusqu'en 1995, ce qui est quand même extraordinaire quand on y pense, parce que depuis le début, depuis 1682, la Comédie française touche ce qu'on appelle aujourd'hui une subvention, ce qui est un anachronisme évidemment, puisqu'à l'époque c'était une pension royale et ça ne couvrait pas du tout tout ce que couvre aujourd'hui la subvention publique, mais quand même malgré tout. Mais donc les acteurs ont toujours gardé les archives. Alors, mon interprétation sur cette question-là, c'est que les acteurs au XVIIe et au XVIIIe siècle, donc jusqu'à la Révolution française, étaient une catégorie à part de la société française. C'était des gens qui n'étaient pas dans la société civile et religieuse. Ils n'avaient pas le droit notamment aux sacrements religieux, ce qui était extrêmement important sous l'Ancien Régime. Et je pense que ces comédiens avaient une conscience d'être non seulement exclus, bien sûr, puisqu'ils l'éprouvaient au quotidien, mais aussi de former une communauté à part. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi dans les archives et qui était assez fascinant pour moi qui suis archiviste. C'est à quel point ils se réfèrent à leurs archives pour justifier ce qui est un privilège à l'époque, puisque le roi, quand il fonde cette troupe, concrètement, ce qu'il fait, c'est qu'il rejoint, il regroupe deux troupes qui existaient à ce moment-là, la troupe de l'hôtel de Guénégaud et la troupe de l'hôtel de Bourgogne. Donc c'est un acte très fort, en fait, de la part du pouvoir politique, de contraindre des gens à jouer ensemble. D'ailleurs, il choisit les comédiens qu'il souhaite. Et en contrepartie, il leur donne le privilège du répertoire français dans Paris et ses faubourgs, c'est-à-dire que c'est la seule troupe qui pourra jouer en français à Paris. Et ça, évidemment, c'est un privilège énorme, puisque ça veut dire que tout auteur qui veut exister sur la scène dramatique, puisque c'est quand même principalement ça le but des auteurs qui écrivent du théâtre, c'est de passer par la Comédie française. Et donc ce privilège, il faut le défendre, parce qu'évidemment, il fait l'objet d'attaques nombreuses et variées au cours du XVIIIe siècle, de la part des comédiens italiens, mais aussi du théâtre de la foire. Et donc il faut défendre le répertoire qu'on a monté en disant que ça appartient bien à la Comédie française, et le moyen de prouver cela, c'est de ressortir des archives, en fait. Donc les archives sont très souvent invoquées, on dit qu'il faut prendre soin des archives, et elles sont surtout conservées. Alors pas dans des conditions exceptionnelles, hein, on a des descriptions assez cataclysmiques du local de conservation des archives au XVIIIe siècle, mais bon, en tout cas, elles ont survécu puisqu'elles sont arrivées jusqu'à nous. Pour vous dire un petit peu, il y a les archives sont tenues de manière quasiment ininterrompue. Il y a très peu de pertes d'archives, contrairement notamment aux archives de l'Opéra, qui avaient un régime de fonctionnement complètement différent, puisque à l'Opéra, ça n'était pas une société de comédiens ou d'acteurs ou de chanteurs ou de danseurs, de musiciens. C'était en fait un régime de directeurs. Donc, et notamment parfois de directeurs entrepreneurs, qui étaient vraiment des gens qui avaient un intérêt économique à ce que le personnel, à ce que le théâtre fonctionne. Donc ces gens-là n'avaient pas vraiment de vision de ce que pouvait être la continuité d'une institution. Parfois ils se débarrassaient des archives qu'ils trouvaient sur place, ou parfois ils partaient eux-mêmes avec leurs propres archives. Donc il y a moins de continuité dans une institution pourtant plus ancienne comme celle de l'Opéra. Alors, je vais vous parler des deux séries importantes que nous avons dépouillées pour écrire ce livre. La première série, c'est la série des registres journaliers de la Comédie-Française, qui fait l'objet d'un projet très important d'humanité numérique. Donc là, je parle peut-être aux étudiants qui se trouvent dans la salle. Donc c'est un projet qui associe de très nombreuses universités, qui dure depuis 2008. Et vous avez donc l'adresse du site internet et une image qui vous donne un peu l'idée de l'aspect de ce site internet. Et donc ce projet associe les universités de Nanterre, de la Sorbonne, de Rouen, de Poitiers, du MIT aux États-Unis, de Harvard également, et de Victoria au Canada. Donc c'est un projet international, et ces chercheurs se sont regroupés pour trouver des financements, en fait, pour mettre à profit ce fonds extraordinaire qui était jusque-là accessible uniquement en salle de lecture à la Bibliothèque Musée de la Comédie-Française, donc finalement très peu accessible, puisqu'il fallait connaître, il fallait pouvoir avoir les moyens de séjourner à Paris ponctuellement pour pouvoir le consulter. Et surtout, finalement, ce qu'on avait remarqué, c'est que tous les chercheurs qui travaillaient sur ces fonds faisaient toujours les mêmes dépouillements. C'est-à-dire que l'un travaillant sur Voltaire, l'autre sur Marivaux, un troisième sur le public, dépouillait ces registres, donc rentrait les données qui les intéressaient chacun dans des petites bases de données personnelles, et que finalement, c'était toujours le même travail qu'on faisait, c'est-à-dire des lectures de registres et du moulinage statistique ensuite pour pouvoir en sortir des données objectives. Donc l'idée de ce projet, c'était de numériser tous ces registres, donc vous avez un exemple de page ici sur la gauche, et de ressaisir absolument tout ce qu'il contenait de manière à pouvoir obtenir automatiquement ces relevés statistiques qu'on mettait auparavant des années à obtenir. Ce qui fait que la recherche ensuite peut se concentrer sur d'autres problèmes. Une fois qu'elle a fait l'économie de tout ce comptage, elle peut s'intéresser à des questions plus artistiques, plus littéraires, donc c'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Voilà, et c'est évidemment un outil très très important pour étudier plein de choses, parce que là, par exemple, j'ai sorti, en fait, tout bêtement, dans la base de données, si vous consultez, j'ai sorti les représentations qui font le plus de recettes. Donc cette base de données comprend, pardon, j'ai oublié de le préciser, les données qui concernent la période 1680-1793, donc uniquement l'Ancien Régime. Donc parmi les plus fortes recettes, on a ce samedi 20 mars 1720, avec une recette historique. Et puisqu'on a 6395 livres de recettes, et on voit que les spectateurs sont extrêmement nombreux, puisque rien que si on considère les billets les moins chers, qui sont les billets du parterre à 2 livres, on a 602 billets, ça veut dire 602 personnes au parterre. Donc le parterre, c'est l'orchestre actuellement, et il n'y avait pas de fauteuil, donc on était debout au parterre. Donc on entassait les gens allègrement. Mais c'était, enfin là, je pense que les gens étaient vraiment serrés, très très serrés, hein, pour être 600 sur un petit espace comme ça. Ça ne devait pas être confortable du tout. Et en fait, on est la veille de la fermeture de Pâques. La saison théâtrale allait de Pâques à Pâques, puisqu'en fait, les comédiens n'avaient pas le droit de jouer pendant les jours saints. Donc, on rouvrait après les jours saints et on fermait juste avant. Donc évidemment, on a un programme, on a une tragédie religieuse avec Polyeucte, et puis ensuite on a une petite comédie qui s'appelle Le port de mer de Boindin, qui était une comédie très à la mode, avec un petit divertissement final, dansé, chanté, qui réjouissait les cœurs après que la tragédie les a fait pleurer. Et voilà, donc en fait c'est vraiment un programme tout à fait typique de fermeture juste avant Pâques, Et comme on sait qu'il va y avoir beaucoup de monde, les comédiens en profitent pour doubler le prix des places, ce qui explique cette recette absolument phénoménale. Voilà, donc rien qu'avec une petite page comme ça, en fait, on peut expliquer plein de choses de la vie théâtrale. Donc, c'est vrai que c'est très très pratique d'avoir tout ça en ligne et de pouvoir le consulter très rapidement. Alors, pardon, donc j'ai précisé que ces archives avaient été numérisées pour la période 1690-1793. Évidemment, le projet des registres continue par la suite. Attendez, je reviens juste quand même là-dessus pour vous dire un peu comment se déploie ce projet. Donc la première phase a consisté à s'intéresser aux recettes du théâtre, ce qui permettait d'avoir des données sur le public. La deuxième phase, qui est actuellement en cours, s'intéresse aux dépenses. Donc c'est le deuxième pavé du bas, là, que vous voyez, qui donne des informations très intéressantes sur la mise en scène, sur les moyens qui sont requis pour la représentation d'une soirée particulière. Et puis la troisième phase de ce projet, qui est aussi en cours, avec justement Florence Philippier et Florence Nogrette, c'est celle qui concerne le 19e siècle. Donc on a le projet de poursuivre sur le 19e siècle ce recensement, ce dépouillement, cette numérisation. Le deuxième fonds qui a été très important, ça a été celui des registres d'assemblées et de comités. Alors, les comédiens sont totalement autonomes, ils ont une gouvernance propre en fait de leur établissement dès le début de l'existence de ce théâtre, et ils se réunissent tous les 15 jours, en général le lundi, pour décider de ce qu'ils vont jouer et puis statuer un peu sur les problèmes qu'ils rencontrent couramment. Ça va le son? Ouais, je ne fais pas trop de bruit désagréable. D'accord. Donc là, par exemple, vous avez la feuille d'assemblée du 21 décembre 1682, donc on est vraiment au tout début de cette histoire. Et c'est vraiment une feuille absolument typique, c'est-à-dire que donc on dit dans la première partie que les comédiens se sont assemblés, donc les comédiens présents ont signé, puisqu'on touche un droit de jeton quand on vient assister à l'assemblée, donc c'est très important de savoir qui était là. Et puis on précise aussi qui était absent dans la deuxième partie, pour qu'il n'y ait pas de récrimination. Et puis ensuite, alors la délibération suivante concerne les loges des spectateurs. Donc je vous ai parlé du public du parterre qui était en bas, et puis il y avait des loges particulières qui en général contenaient 8 places. Et ce qui se passait, c'est que soit on louait la loge entière, donc là, voilà, on invitait ses amis, on en disposait comme on voulait, soit on achetait une place, en fait, pour un bout de loge. Et dans ce cas-là, donc, ce qu'ils expliquent, c'est que c'est quand même assez injuste, parce que le placement fait qu'on donne aux premiers arrivés les plus mauvaises places, pour pouvoir disposer des places les plus rapides à remplir au dernier moment. Donc là, on établit qu'il faudrait d'abord donner les meilleures places aux premiers arrivés. Ensuite, la deuxième délibération, c'est une délibération qui concerne les affaires financières. Voilà, il est question de Madame Mincart, qui est un peu un personnage clé de l'administration de cette époque. Et puis ensuite, on parle des loges des acteurs, donc les loges, là, cette fois, qui sont dans les coulisses. Et on décide de travaux qu'il faut réaliser pour que chacun ait sa loge, puisqu'à cette époque-là, au tout début de l'établissement, chacun n'a pas encore sa loge. Et puis ensuite, on est à la veille de Noël, on est le 21 décembre, et la dernière délibération concerne le pain béni que la compagnie va offrir à la paroisse et l'argent qu'on va donner pour la messe de minuit. Voilà, donc c'est vraiment le quotidien de la troupe, et ça c'est absolument fascinant, parce qu'en fait on sait au jour le jour de quoi ils s'occupent. Donc ça, c'est pour des historiens, c'est totalement inespéré. Alors ça peut être des sujets artistiques, mais aussi des sujets de tous ordres, qui concernent le bâtiment, qui concernent des procès, beaucoup qui concernent leurs dettes, parce qu'ils ne sont pas des très bons gestionnaires, et donc souvent ils sont très endettés. Voilà, mais en tout cas, quand on les lit sur la durée et dans la chronologie, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on arrive à avoir des lignes de force, en fait, sur les préoccupations, sur l'évolution de certaines thématiques, Et donc, pour moi, c'était très important de les lire vraiment dans la continuité et dans l'ordre chronologique. Et ça, c'est quelque chose que je recommande aux étudiants, personnellement. Parce que c'est vrai que le problème des bases de données, c'est que du coup, on aborde aussi les choses par le petit bout de la lorgnette. Et vous verrez que si vous consultez ce site internet, moi, j'ai vraiment eu à cœur qu'il y ait lié, sous forme de facsimilés numériques, les registres, qu'on puisse les feuilleter comme on ferait en bibliothèque. Parce que souvent, on comprend des choses en voyant les pages les unes après les autres. Voilà, une dernière image sur ces sources. Après, je vais aller un peu plus vite. Alors là, c'est aussi une page que j'adore. C'est le registre du comité d'administration en 1766, c'est-à-dire à la création du comité d'administration. Donc jusque-là, les comédiens siégeaient toujours en assemblée plénière pour toutes les réunions. Évidemment, il y avait beaucoup d'absentéisme parce qu'ils avaient autre chose à faire que d'aller à ces réunions qui sans doute devaient être assez longues. Et donc on crée un comité d'administration restreint qui va être exécutif, qui va être plus efficace et qui va toujours être composé de comédiens. Hein, c'est vraiment une gouvernance artistique. Et alors, ce document est extraordinaire puisque c'est la distribution des emplois dont chacun des membres du comité doit être chargé. Et donc, on constate que Lequin, qui est de très loin le plus grand comédien du XVIIIe siècle pour la tragédie, qui est vraiment une star absolue à cette époque-là, est l'équivalent actuel du directeur général des services, de l'agent comptable et du gestionnaire de la caisse de retraite. Donc aujourd'hui déjà, il y a trois personnes qui sont largement à temps plein, qui s'occupent des missions qui sont les siennes. Bellecour s'occupe des décors. Préville, c'est mon préféré parce que c'est l'archiviste. Donc il s'occupe de la bibliothèque et ce qui va avec, c'est-à-dire qu'il est responsable du contentieux. Et oui, parce qu'on se réfère toujours aux archives pour les affaires, pour les procès. Brizard est directeur du bâtiment, Mollet est en relation avec les auteurs, il s'occupe de la billetterie, du chauffage et de l'éclairage. Et d'Auberval, il est à la page suivante, vous ne le voyez pas, il est responsable de la musique, de l'orchestre, du ballet et des fournisseurs pour les costumes. Donc en fait, il y a une très grande concentration des fonctions administratives, mais qui sont toujours les nôtres aujourd'hui. Alors il n'y a pas le mécénat, et encore, les relations avec la tutelle, quelque part, ça s'apparente à du mécénat. En tout cas, c'est assez étonnant de voir cette répartition dès ce moment-là. Donc ça, évidemment, quand on tombe là-dessus, ben, c'est absolument extraordinaire quand on est historien. Voilà, donc toutes ces séries ont été dépouillées de manière ininterrompue depuis 1680, donc ça a été évidemment un grand travail. Alors, le parcours de l'ouvrage. Nous avons fait un parcours chronologique. Ça aussi, c'était très important pour que les gens arrivent à s'y retrouver. On voulait vraiment d'avoir une vision chronologique des choses. Malgré tout, les thématiques qu'on aborde sont reprises systématiquement de chapitre en chapitre. Donc, par exemple, les thématiques, ça va être l'histoire de la troupe, du répertoire, le rythme de l'alternance. Donc ça, c'est vraiment les trois grandes thématiques qui sont encore très importantes aujourd'hui. Troupe fixe, c'est-à-dire une troupe, c'est pas des comédiens qui vont et viennent entre différents établissements, donc c'est vraiment une troupe fixe. Le répertoire de la Comédie française, qui est en fait l'ensemble des pièces qu'on a jouées à un moment donné sur la scène de la Comédie française, qui constitue un espèce de fond qu'on doit encore aujourd'hui dans nos missions théoriquement réactiver régulièrement, c'est-à-dire on est censé rejouer les pièces du répertoire ancien et en faire entrer de nouvelles. Donc c'est l'entrée aussi du nouveau répertoire à la Comédie française. Il y avait également l'histoire de l'alternance. Alors l'alternance, c'est le fait de jouer alternativement des pièces différentes chaque soir. Et ça, c'est une caractéristique de la Comédie française qui existe par ailleurs à l'étranger aussi, mais en France, on est les seuls à jouer comme ça. Vous pouvez aller voir 4 ou 5, voire 6 spectacles différents dans une même semaine à la Comédie française aujourd'hui. Mais il y a toute une histoire de cette alternance, puisqu'au XVIIe siècle, c'était une centaine de pièces différentes par an, et au XIXe siècle, c'est à peu près 200 pièces différentes par an. Donc le rythme de l'alternance est très important, parce qu'évidemment, ça détermine l'art de l'acteur, comment l'acteur se positionne par rapport au texte qu'il a à jouer. À certains moments, bon, on est plus dans de la mémorisation que dans de l'incarnation et de... un travail de mise en scène, et aujourd'hui, il serait totalement impossible de travailler avec 200 pièces différentes par an, tout bêtement parce qu'il y a la mise en scène, parce qu'il y a des décors, et parce qu'on ne peut pas stocker autant de scénographies différentes dans la cage de scène. Donc ça nous semblait très important d'étudier les rythmes de cette alternance. Les liens avec le pouvoir, ça j'en ai déjà parlé, l'évolution du jeu de l'acteur, tout ce qui était aussi de l'ordre du symbolique, des événements qui marquent l'identité de l'institution, et surtout, une dernière chose qui nous a semblé très importante, parce que c'est parfois un tout petit peu oublié de ces ouvrages généralistes notamment, c'est la question du public. Quel est le public à une période donnée? Comment il réagit dans la salle? Qu'est-ce qu'il vient chercher au théâtre? Voilà, on a vraiment essayé d'aller trouver des informations qui sont évidemment, alors à la fois nombreuses, puisqu'on sait combien il y avait de personnes dans la salle, mais les témoignages de ce public, il faut quand même aller les chercher, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, la grande chance aussi qu'on avait, c'est qu'on avait beaucoup d'iconographie. Donc l'ouvrage est illustré d'à peu près 230 documents, et moi, il me tenait à cœur aussi d'avoir une grande variété de cette iconographie. Donc il y a à la fois des dessins, des peintures, des maquettes de costumes, enfin des choses extrêmement différentes. Et ce qui me semblait aussi très important, c'était de faire figurer des caricatures. Parce que on a découvert un petit peu ce fonds de caricature avec l'équipe de la bibliothèque musée relativement récemment, parce qu'en fait on a fait une exposition à partir de ce fonds. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que d'abord, au premier abord, on ne comprend absolument pas ces caricatures. On n'arrive pas du tout à les interpréter quand on n'a pas le contexte en tête, parce qu'on ne peut pas les lire finalement quand on n'a pas connaissance. Donc on s'est rapidement... Ah oui, bon, je vous ai mis le sommaire, mais c'est peut-être pas très important. On s'est dit assez rapidement que parfois, c'est une vision extrêmement synthétique d'une époque. Donc par exemple, on a cette caricature du critique Geoffroy, donc on est au tout début du 19e siècle, on l'a daté des années 1802-1804 à peu près. Et là aussi, je dois dire qu'on rend hommage à notre éditeur, parce qu'il nous a permis de faire des légendes très développées, et parfois, ce qu'on n'a pas pu écrire dans le texte, on l'a écrit dans les légendes. Et donc, ce critique Geoffroy faisait un peu la pluie et le beau temps à cette époque-là, dans le milieu théâtral. Et il était l'auteur de feuilletons dramatiques, voilà, pendant la période du Consulat et de l'Empire, et vraiment, il avait une très grande influence sur le public, mais aussi sur les acteurs qui guettaient ces feuilletons au jour le jour. Et donc là, on voit deux comédiennes, donc on a identifié comme Mademoiselle Volney et Mademoiselle Georges, qui viennent un peu plaider leur cause auprès du critique. Elles viennent avec des arguments, hein, puisque Mademoiselle Georges, qui est au premier plan, vient avec son pâtissier et offre au critique un pâté d'Amiens, puisqu'en fait elle a fait ses débuts à Amiens. Et donc Mademoiselle Volney semble avoir un petit peu moins d'arguments, on va dire. Elle est d'ailleurs beaucoup moins connue que Mademoiselle Georges. Alors la bibliothèque, alors déjà ce critique est donc juché sur les feuilles de son feuilleton. Et surtout, au pied de son bureau, il a mis un peu en vrac tout ce qui ressemble à de la philosophie des Lumières. Il fait fuir aussi le génie de Voltaire, donc c'est vraiment c'est un ancien aristocrate. Et on voit qu'il n'est pas du tout en phase avec ces idées-là. Sa bibliothèque aussi est tout à fait le reflet de ses centres d'intérêt qui tournent autour de la religion. Puisqu'il a hésité entre la carrière religieuse et la carrière de critique dramatique, et la gastronomie, et l'œnologie, puisque vous voyez qu'au fond de la salle, voilà, il y a toute une cave qui sont bien sûr du vin de Volney et du vin de Clos Saint-Georges, puisque les comédiennes n'en sont pas à leur premier essai pour l'amadouer, et donc ont déjà fait des cadeaux, visiblement. Voilà, donc ça a été très important pour nous de commenter cette iconographie, parce que quelque part, bon, ben, Geoffroy, dans un ouvrage comme généraliste, on n'en aurait peut-être pas parlé, mais là, ça nous semblait particulièrement adapté comme étant un personnage représentatif de la montée en puissance de la critique dramatique à cette époque-là. Alors, vous souhaitez aussi mettre dans cet ouvrage des documents qui étaient peut-être moins connus du public, qui étaient des documents de travail, comme les relevés de mise en scène. Donc là, vous avez un relevé de mise en scène très prestigieux dans sa facture, qui a été réalisé par Val Néfis pour la mise en scène d'Émile Perrin, la reprise d'Hernani en 1879. Donc là aussi, ce type de document est très important. Alors déjà parce que sur une double page comme ça, on voit tout à fait en quoi consiste ce document. Donc vous avez la maquette du décor, en dessous le plan d'implantation du décor. On a une époque où vraiment la mise en scène a toute sa place. Donc il faut avoir des documents techniques très précis pour mettre en jeu le spectacle. Et puis le relevé de mise en scène, qui est en fait la suite ininterrompue des changements qui se passent sur le plateau et des ruptures. Donc on cite en fait les passages du texte clé qui enclenchent un mouvement sur le plateau. Et alors ce relevé de mise en scène est particulièrement beau puisqu'il a été entièrement manuscrit et dessiné, puisque les personnages que vous voyez en bas à droite sont les comédiens Mounet Sully et Sarah Bernard qui jouent les rôles principaux. Ce qui est très important aussi dans ce relevé de mise en scène, on ne l'a pas choisi par hasard, bon, déjà qu'il est très beau, mais aussi parce que c'est une manière pour le metteur en scène, qui est également administrateur général, de faire entrer la mise en scène dans le patrimoine. C'est-à-dire qu'il note dans ses moindres détails et sous une forme particulièrement fastueuse la mise en scène, de manière à dire que ça fait partie de l'art aussi et que ça mérite mémoire. Alors, maintenant je vais aborder quelques thématiques, quelques notions, quelques problématiques qui ont émergé au cours des recherches et qui ont été importantes. Alors, je vous ai déjà pas mal parlé du rapport du théâtre au politique. Donc le politique, il est très structurant pour la Comédie française d'un point de vue institutionnel, puisqu'en fait tout le fonctionnement de la Comédie française est quand même sous la tutelle du pouvoir politique, sous des formes différentes. Au XVIIe siècle, parce que la Comédie française est créée par le roi, mais aussi petit à petit va être réglementée par la tutelle royale, impériale ensuite, puis républicaine à toutes les époques. Enfin, en tout cas, à toutes les époques, cette institution est sous tutelle de l'État. Alors beaucoup plus à partir de 1850. Puisqu'en 1850, on nomme à la tête de cet établissement un administrateur général, une fonction qui existe toujours aujourd'hui, qui est occupée aujourd'hui par Éric Ruff. Et cette fonction, cet administrateur général est nommé par le gouvernement. Donc évidemment, là, on met à la tête de cette institution une personnalité qui est nommée par le pouvoir politique directement. Le pouvoir politique est structurant aussi d'un point de vue artistique, puisque le pouvoir politique donne des moyens, alors plus ou moins importants selon les époques, pour les représentations ordinaires, mais aussi pour les représentations extraordinaires, notamment toutes les représentations qui sont données à la cour. Donc au XVIIe, au XVIIIe siècle, quand on crée une nouvelle pièce, on la crée d'abord à la cour, dans des conditions exceptionnelles, avec des décors et des costumes qui sont prêtés par l'administration royale. Et en général, quelques jours après, on recrée la pièce à la ville. Le pouvoir politique intervient parfois dans des circonstances un peu exceptionnelles. Donc, par exemple, Louis-Philippe, en 1837... commande une nouvelle mise en scène du Misanthrope à la Comédie française pour l'inauguration du musée de l'histoire de France à Versailles. Donc c'est une représentation très importante. Et pour cette représentation, les comédiens commandent et font payer sur la cassette royale des costumes nouveaux qui vont être enfin des costumes du temps de Louis XIV. Parce que jusqu'au début des années 30, les comédies de Molière étaient jouées dans les costumes du temps. Donc, tout début des années 30, on voit Mademoiselle Marthe avec ses manches gigots qui joue Célimène. Donc là, ce sont des costumes du temps de Louis XIV qui, effectivement, nécessitent un investissement important, qui ne peut pas être payé par les comédiens, donc c'est le roi qui paye. Et ces costumes vont être extrêmement importants d'un point de vue artistique, puisqu'en fait, chose extraordinaire, on en conserve encore quelques-uns à la Comédie française, donc ça vaut le coup d'être noté. Et puis, ils vont être copiés au fil du temps. C'est-à-dire que quand on va considérer qu'ils seront trop usagés, on va les recopier. Et on voit dans les inventaires, très précisément, les dates à laquelle on a refait tel ou tel costume. Et jusque dans les années 1950, j'ai encore trouvé l'utilisation notamment de la cape qu'on voit là pour Alceste. Donc c'est, enfin vous imaginez, donc l'action royale en 1837 dirige quelque part la conception des costumes jusque plus d'une centaine d'années plus tard. Alors évidemment, j'ai une image après mais je ne sais plus laquelle c'est. Ah voilà, oui, c'est très important. Donc du point de vue de la réglementation, là vous avez dans cette feuille qui date de 1701 la naissance de la censure théâtrale. Alors est-ce que j'ai... Oui, parce que je vais peut-être pas le lire à l'écran parce que là je vais mettre 3 heures, donc je vous le lis. On a lu à l'Assemblée la copie d'une lettre écrite par Monsieur de Pontchartrain de l'ordre du roi à Monsieur d'Argenson, portant qu'il est revenu à Sa Majesté, qu'il se glissait dans nos représentations quelques expressions et postures indécentes, et que Sa Majesté veut que nous ne jouions aucune pièce nouvelle sans la communiquer à Monsieur d'Argenson, sur quoi Monsieur d'Argenson, ayant mandé la compagnie pour nous faire entendre les intentions de Sa Majesté. Donc ça veut dire qu'en fait, toute pièce désormais doit être présentée à un censeur. Et l'Assemblée a résolu d'apporter toute l'attention possible pour régler nos représentations en sorte qu'elles ne s'écartent en aucune manière de la pureté où elle doit être pour nous conformer aux intentions de Sa Majesté. Donc là, il y a déjà finalement un geste d'autocensure qui arrive tout de suite, dès la première manifestation d'une censure officielle. Et donc on précise qu'on portera dès aujourd'hui à Monsieur d'Argenson la liste des petites comédies qu'on jouera dans la semaine. Et ensuite, toutes celles qui sont sur le répertoire général. Parce que dans les petites comédies, donc, qui faisaient suite à la tragédie, c'est là qu'on glissait d'éventuelles licences, d'éventuels gestes un peu inappropriés, on va dire. Donc voilà, on en donne la liste. Et alors, je crois que je n'ai pas recopié ça. Attendez, si c'est sur la page suivante. Et alors, par exemple, ça, c'est très intéressant. Donc, pour le Misanthrope, il y avait un petit marquis qui était interprété par Mademoiselle Mimi d'Ancourt. Eh bien, on a fait réflexion que finalement, le déguisement sans nécessité peut blesser la bienséance. Donc on prie Monsieur de la Torillière de jouer demain le rôle en attendant qu'un autre comédien se forme au rôle. Donc voilà, un effet finalement de travestissement au sens propre est tout de suite écarté parce que voilà, ça peut blesser la bienséance. Alors, une autre notion qui nous a travaillé au cours de l'écriture, c'est la notion d'avant-garde. Et comment la Comédie française se situe par rapport à cette notion d'avant-garde ? Est-ce que c'est une institution qui est repliée sur la tradition ou est-ce que c'est une institution qui s'oriente vers une modernité ? Enfin, entre repli et ouverture, c'est vraiment une question qui nous a taraudé. Et en fait, c'est une question qu'on a toujours, c'est-à-dire que chacun a un peu sa vision de la Comédie française. Donc, certains nous écrivent en nous disant « Mais comment ? On ne voit plus aucun costume du XVIIe siècle sur votre scène alors que vous êtes la maison de Molière. » Et d'autres nous disent « Mais vous jouez Shakespeare avec des comédiens à moitié dénudés, comment est-ce possible ?» etc. Donc voilà, évidemment les gens ne sont jamais contents et ont toujours leur vision de ce que doit être cette institution. Alors, et puis surtout, les gens oublient parfois que c'est un théâtre de création. Et ça, c'est vrai dès le début, dès 1680, et d'autant plus au début, puisque au début, c'est la seule à pouvoir jouer le répertoire français. Donc c'est quand même forcément un théâtre de création. Et on va dire que c'est, enfin, la mission artistique supérieure de la Comédie française est présente dès l'acte de création de la Comédie française, la lettre de cachet de Louis XIV, puisqu'il dit qu'il souhaite joindre les deux troupes pour rendre la représentation des comédies plus parfaite. Donc on a vraiment ce but-là au départ. Alors évidemment, cette capacité à innover, à créer, à représenter la création artistique dans son ensemble va être mise... Ah pardon, je baisse le micro. Va être mise en cause par les troupes concurrentes, celles dont j'ai déjà parlé, par le théâtre italien et le théâtre de la foire, qui, pour contourner le privilège de la comédie française, vont se mettre à inventer des formes de spectacle qui vont être tout à fait différents et très innovants également. Donc aujourd'hui, on peut se poser la question si l'avant-garde ne se passait pas plutôt sur ces théâtres-là plutôt qu'à la comédie française. Mais en tout cas, cette question est toujours intéressante à étudier. Alors, une autre chose qui nous a bien intéressé, c'est évidemment la période romantique dont on a eu l'occasion de parler avec Florence Nogrette, ce qui ressort des ouvrages pour le grand public, c'est toujours ce qui se base sur les mémoires d'Alexandre Dumas, sur la littérature secondaire, donc l'idée que la comédie française, finalement, n'aurait pas été très volontaire dans cette révolution artistique. Or, les archives montrent exactement le contraire. Donc, ça aussi, c'était quelque chose d'intéressant. De même que l'arrêt du romantisme en 1943 avec l'échec des Burgraves. Donc Florence a bien montré, c'est évidemment pas vrai du tout, et on le vérifie à la Comédie française, puisqu'on continue à jouer ces pièces, on avait tout à l'heure le témoignage de la mise en scène de 1879, et même tout un répertoire de la fin du XIXe siècle est encore très largement dans l'esthétique romantique. Donc, quelque part, la Comédie française, à ce moment-là, tient le rôle d'une espèce de validation des avant-gardes artistiques. C'est-à-dire que peut-être qu'elle n'est pas la première à s'emparer des nouveaux mouvements, mais en tout cas, son statut de premier théâtre, d'institution en tant que telle, fait que quand elle s'empare de ces genres nouveaux, eh bien, c'est une sorte de normalisation, quelque part, de validation de ces innovations dramatiques. La question est à nouveau posée en 1864 avec la loi sur la liberté des théâtres. Alors là, donc à nouveau une petite image satirique que j'ai bien aimé, sur laquelle j'ai bien aimé tomber parce que je cherchais désespérément une illustration pour illustrer cette loi. Donc c'est la loi de 1864, c'est en fait l'abolition complète de ce système de privilèges qui avait quand même perduré après la Révolution française. À partir de cette période-là, n'importe quel théâtre, n'importe quelle compagnie peut s'emparer de n'importe quel répertoire dramatique. Donc par exemple, la tragédie en cinq actes, qui était vraiment la prérogative de la comédie française, pourrait être jouée sur d'autres théâtres. Et à partir de cette période-là, la comédie française même pourrait faire des incursions dans des domaines qui lui étaient interdits jusque-là. Donc là, on a une caricature qui représente donc la volière qu'on ouvre, qui laisse échapper tous les volatiles qui représentent les genres dramatiques. Donc vous avez par exemple la tragédie représentée par l'aigle, le rouge-gorge représente l'opéra, le pinson l'opéra comique. La sombre chauve-souris représente le mélodrame, une femme ailée, la féerie, le perroquet, le vaudeville, la chouette, le drame, l'alouette, la comédie, et le coq gaulois représente le répertoire patriotique. Voilà, donc après, on pourrait discuter longuement sur l'interprétation, mais au pied de cette cage, il y a des ours qui sont en très mauvaise posture, qui ont de vagues ailes. J'ai interprété ça comme la rivalité artistique entre la France et la Prusse, puisque l'ours est le symbole de Berlin. Et voilà, donc comme quoi la Prusse serait vraiment complètement débordée par cette libération de la volière des privilèges du répertoire dramatique français. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, les cartes sont entièrement rebattues pour la comédie française, puisqu'elle va devoir chercher des auteurs, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, les auteurs se présentaient spontanément à la comédie française, parce que c'était quand même assez prestigieux. À partir de cette époque-là, eh bien, il faut aller les chercher. Il faut aller même parfois les chercher assez loin. On se demande même s'il ne faut pas vraiment leur faire des commandes. Il y a cette réflexion-là à cette époque-là. Alors, par exemple, ce qui est très intéressant, c'est qu'en 1864, justement, c'est l'entrée au répertoire de La Biche. Mais on sent que la comédie française est encore très prudente par rapport à cette question-là, parce qu'en fait, La Biche ne va pas du tout présenter un vaudeville comme le public a l'habitude d'en voir, mais il va présenter une comédie en bonne et due forme, d'ailleurs qui va avoir aucun succès parce que le public s'attend à voir autre chose de la part de La Biche. Et puis il y a même des périodes où vraiment on demande à des auteurs, et il y a par exemple une lettre de l'administrateur général au début du XXe siècle qui demande à Georges Feydeau si il ne voudrait pas écrire pour la comédie française. Et Feydeau propose Feu la mère de Madame, qui est une pièce qui a déjà été jouée, puis qui est une toute petite pièce en fait. Et donc l'administrateur lui dit non, mais en fait on aimerait une pièce qui représente davantage votre théâtre, enfin voilà. Mais bon, Feydeau n'a pas donné suite, donc pour vous dire que la comédie française a quand même un peu de mal à partir de cette période-là à séduire les auteurs. Alors les questions d'avant-garde se diversifient évidemment beaucoup à partir du XXe siècle sur, alors ça ne touche plus seulement le répertoire, mais bien sûr la question de la mise en scène qui se développe très fortement à partir de la fin du XIXe siècle, et la comédie française est là aussi un petit peu en retard. Donc on va dire que l'avant-garde va se situer davantage sur ce niveau-là à partir de cette période. Alors la question de l'avant-garde, elle se situe aussi d'un point de vue théorique. Là, c'est aussi une trouvaille qu'on a faite dans les archives, c'est le registre du comité de 1780, et c'est en fait un réquisitoire qui est adressé par la troupe aux premiers gentilshommes de la chambre du roi, qui sont la tutelle de la troupe à cette époque-là, et qui valide complètement les formulations de Diderot sur le quatrième mur, qu'il a formulé donc bien avant, en 1758, dans son texte de la poésie dramatique. Et donc, le quatrième mur, c'est l'idée que il ne doit pas y avoir de communication en fait entre la salle et la scène, puisque le spectateur doit avoir l'impression d'avoir un espèce de tableau vivant qui se déroule devant ses yeux, presque avec une paroi de verre finalement, et l'impossibilité que ça puisse communiquer. Et ils disent dans ce texte: pour l'intérêt du public et des acteurs, un mur impénétrable devrait séparer toujours et les acteurs et le public. Ils ne devraient jamais avoir de communication ensemble dans cette enceinte qu'on appelle le théâtre. Ce qui n'a de mérite que par l'illusion, ce qui ne se soutient que par l'illusion, ne devrait jamais être subordonné à ce qui peut la détruire. Donc en fait, le fait de discuter, de communiquer avec les spectateurs, faisait que l'illusion du spectacle était totalement détruite, puisque évidemment, le personnage sortait de son rôle. On ne savait plus si on voyait l'acteur en train de jouer un personnage ou le personnage de la fiction. Et donc, voilà, les comédiens déplorent cette pratique qui a pourtant la vie dure au XVIIIe siècle. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que le texte est composé de deux colonnes. Donc, le texte se déploie en fait sur plusieurs pages. Hein. Il est très complet et très intéressant, puisque les comédiens donnent des exemples. Et puis sur la page de droite, sur la colonne de droite, en fait, c'était la colonne réservée aux réponses. Et en fait, c'est resté absolument vide, ça n'a strictement rien inspiré à la tutelle des comédiens. Alors, une autre chose qu'on a souhaité suivre dans la continuité historique, c'est tout ce qui concernait les métiers, les effectifs du personnel, les statuts des personnels, toute l'histoire sociale, en fait. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'avait pas non plus été très étudié dans la durée. On a des études aussi, là aussi, ponctuelles, sur une période, sur un type de métier. Et puis, c'est quand même quelque chose d'assez fascinant, parce qu'on en a encore aujourd'hui des restes dans nos équipes, c'est-à-dire qu'il y a encore des métiers qui sont des métiers qu'on pratiquait au 19e, au 18e siècle et qui n'existent plus qu'au théâtre aujourd'hui. Donc voilà, on a traqué un peu tout ce qu'on avait dans l'iconographie sur ces métiers de l'ombre, sur l'évolution de ces métiers et leur statut. Parce que c'est très important de savoir si un métier est considéré comme un prestataire extérieur, ou alors, enfin, s'il est titulaire en fait d'un contrat, ou alors s'il fait partie du personnel de la Comédie française. Et puis ces métiers évoluent. Donc, par exemple, une fonction très importante à la fin du XVIIIe siècle est celle de secrétaire souffleur. Donc, c'est la personne qui va à la fois diriger la répétition, noter sur le texte tous les changements qu'on opère en cours de répétition, souffler pendant la représentation, puisque comme je vous le disais, quand on est, comme les comédiens sont censés pouvoir jouer une centaine ou 200 représentations, spectacles différents, textes différents par an, la mémoire est quand même un peu approximative à certains moments, même si c'est un travail tout à fait différent hein, de l'acteur, mais quand même. Donc il peut y avoir des trous de mémoire. Donc le souffleur a une mission très importante à ce moment-là. Et puis c'est aussi à cette époque-là celui qui tient une partie des archives, notamment les registres de feu, qui servent à payer les acteurs l'indemnité qui sert à chauffer et à éclairer la loge. Donc c'est très important. Enfin, le souffleur est le seul qui voit concrètement ceux qui sont sur le plateau le soir même. Donc c'est lui qui tient ces registres-là, par exemple. Alors aujourd'hui ce métier existe toujours quelque part, donc il se transforme. Au 19e siècle on peut considérer que, alors il y a plusieurs fonctions qui s'enchaînent avec le souffleur, il y a le régisseur, il y a aussi le garçon de théâtre qui est un peu l'homme à tout faire du plateau, qui va changer les accessoires, amener le mobilier, etc. Et puis aujourd'hui c'est le régisseur assistant, donc qui tient le relevé de mise en scène, ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la fin du 19e siècle. Ça existe toujours à la Comédie française, on a toujours quelqu'un qui est chargé de ça, de faire le relevé de mise en scène, et cette personne est également chargée de souffler en représentation, même si ça arrive beaucoup moins souvent qu'au 18e siècle. Et puis les très nombreux métiers aussi qui ont disparu. Donc, par exemple, le métier de perruquier. Alors, on utilise toujours des perruques à la Comédie française, mais au XVIIIe siècle, c'était très important, parce qu'en fait, tout le monde portait des perruques. À la ville, à la scène, on ne sortait pas sans perruque. Donc, il y avait vraiment des gens qui étaient chargés des perruques à la Comédie française. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de perruquiers. Il y a des coiffeurs qui sont chargés de coiffer les perruques. Mais la fonction de perruquier n'existe plus. Alors, une petite image, voilà, ça aussi qu'on a trouvé, qui est très intéressant, parce que c'est un registre de tapissier. Donc, le tapissier, c'est celui qui s'occupe du mobilier et des tentures. Et là, donc, c'est un registre qui date de 1941, donc c'est une pièce d'André Aubet qui s'appelle Noé. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir le réemploi des éléments de décor sur ce plan. Donc vous voyez qu'on utilisait des toiles qui servaient pour d'autres pièces, pour La Fleur Merveilleuse, pour Les Caprices de Marianne. Donc on voit un peu comment, dans le cadre de l'alternance, on fait une programmation qui permet de remettre à profit des éléments de décor qui sont réutilisables d'un spectacle à un autre. Puis ce sont aussi de très beaux documents. Et aussi, alors on a essayé de faire un peu une histoire des luttes sociales, parce que c'est un sujet quand même assez récurrent à la Comédie française, les grèves, etc. Donc ça me semblait intéressant qu'il y ait, que les personnels aient un arrière-plan historique sur cette question-là. Eh bien, figurez-vous que le premier syndicat a été créé en 1919, et c'était tout à fait exemplaire, puisqu'en fait, il rassemblait tous les personnels, c'est-à-dire à la fois les comédiens, et les personnels techniques. Donc là, cette photo-là, c'est très intéressant, parce qu'on a vraiment toutes les grandes figures de la troupe, et puis les petites mains qui s'occupent des costumes, les chefs qui s'occupent des décors, les chefs machinistes, etc. Enfin, voilà. Donc on a une vision du personnel dans son ensemble à cette époque-là. Évidemment, cette belle union éclate assez rapidement dans les années 20, avec les premiers conflits assez durs. Mais en tout cas, cette image était assez emblématique et je voulais la faire figurer dans le livre. Voilà, je vous ai parlé. Alors, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'était les rythmes de création, mais je vous ai déjà parlé de l'alternance, donc c'est peut-être pas la peine que je revienne là-dessus. Et puis, j'avais une dernière image. en termes de conclusion, puisqu'on a fait, enfin, c'était assez dur de terminer, en fait, à vrai dire, parce qu'on se disait, mais notre livre va tout de suite être périmé dès qu'on va l'avoir fini, puisque vraiment, on poursuivait jusqu'à la période très contemporaine. Et on a souhaité conclure sur la Cité du Théâtre. Alors, la Cité du Théâtre, c'est un projet qui va se concrétiser normalement à l'horizon de 2025 et qui donnerait à la Comédie Française deux autres salles sur le site des ateliers Berthier, ce qu'on appelle aujourd'hui les ateliers Berthier, qui se combinent à la fois des ateliers de construction pour l'opéra et une salle pour le théâtre de l'Odéon. Bon, je ne vais pas tout vous détailler sur le projet, mais pour vous expliquer pourquoi, en fait, ce projet-là. Donc, je ne vous ai pas montré de photos de la salle Richelieu, mais comme vous le savez sans doute, c'est un théâtre à l'italienne. Donc, c'est un théâtre qui date de la fin du XVIIIe siècle, avec une forme très classique, qui convient pour un certain nombre de spectacles, mais qui est difficile, en fait, pour certains metteurs en scène qui souhaiteraient faire des types de spectacles tout à fait différents, et notamment qui souhaitent des salles modulables. Donc là, c'est un spectacle qu'on avait donné au Grand Palais en 2012. C'est une mise en scène d'Éric Ruff, de Per Gunt. Et donc, c'était un dispositif bifrontal, ce qui est totalement impossible à faire salle Richelieu, ce qu'on fait souvent au Théâtre du Vieux Colombier, qui est une de nos trois salles, mais qui n'a pas une jauge suffisante, en fait, pour pouvoir amortir ce type de spectacle et pouvoir inviter aussi de grands metteurs en scène internationaux. Donc l'idée de ce nouveau lieu, c'est vraiment d'offrir des plateaux tout à fait modulables à ceux qui font le théâtre tel qu'il se fait aujourd'hui, donc à la fois en frontal, mais aussi dans tous les dispositifs possibles. Donc l'idée, c'est toujours d'être en lien avec la création. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup pour votre écoute.